Salut tout le monde, Radio Canu, lundi, info, 102.2, la plus rebelle des radios. Alors ce soir, on va aller faire un petit tour du côté de la Hongrie, avec le référendum. Un petit côté du tour de la Colombie, avec le traité de paix. La Pologne, avec des manifestations monstres pour protester contre l'interdiction de l'avortement. Une petite brève sur le pape, sur la journée internationale de l'habitat. Au national, sur la loi égalité et citoyenneté, sur les condamnations par l'OIP des conditions d'emprisonnement à Fresnes, sur les problèmes que la grande mosquée de Marseille rencontre pour s'ériger. Également, Kim Kardashian, c'est chiant, et Sarko et Hollande qui sont égalité. Au point de vue local, un bar facho qui s'ouvre. Et puis voilà, ça fait déjà chier, quoi.
Après, au niveau des infos, donc par rapport à la Hongrie, on a une très bonne nouvelle en fait. Une victoire qui est en même temps une défaite, c'est quand même assez drôle. C'est donc le référendum a été gagné à plus de 98%, mais en fait, vu que seulement 40% de la population est allée voter, ce référendum est donc caduc. Donc ce qui est là la très bonne nouvelle en fait. Donc ce référendum, pour rappel, posait la question de, approuvez-vous que l'Union Européenne puisse ordonner l'installation en Hongrie à titre obligatoire de ressortissants non hongrois sans l'accord de l'Assemblée nationale. Donc il y a une véritable campagne qui a été faite notamment par le gouvernement avec des pancartes géantes, des publicités, une véritable fortune qui a coûté plus de 50 millions d'euros, donc ce qui représente plus de 7 fois ce qu'un Britannique aurait payé s'il avait financé la campagne pro-Brexit. Donc heureusement, un mouvement satirique notamment en fait s'est développé, le parti du chien à deux queues, qui on pense a fortement influencé les électeurs en maniant l'humour à l'encontre du pouvoir en place. Car même des fidèles en fait du président Orban, dont de l'extrême droite, ont été abstentionnistes. Donc malgré plus de 6 mois de campagne, de nombreux électeurs rencontrés à la sortie des urnes semblent ne pas bien comprendre les enjeux de ce scrutin, ni le sens de la question. Certains s'étonnent même qu'on leur parle de migrants n'en ayant jamais croisé. Donc une fois de plus, preuve en est que sur la question de l'immigration, comme sur de nombreux autres, la peur de l'inconnu et fantasme que celle-ci appelle est la cause principale du rejet.
Allons en Colombie maintenant. Donc après 52 ans de conflit et plus de 4 ans de négociations à La Havane, la Colombie organisait hier, donc dimanche 2 octobre 2016, un référendum afin de ratifier définitivement l'accord de paix entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Donc cet accord historique a été rejeté par le peuple colombien à 50,2% des voix. Ce résultat extrêmement serré ainsi que le taux d'abstention de plus de 60% pose évidemment la question de la légitimité d'un tel scrutin et devrait pousser les observateurs à s'intéresser à la sociologie des votants. Il est en effet à noter que les régions les plus favorables au oui, notamment la Côte des Caraïbes, ont été empêchées de voter en raison des récentes intempéries qui ont compliqué le transport des votants par hélicoptère, tel qu'il est coutume de procéder en Colombie. Au niveau des mesures controversées de ce texte, on peut citer tout d'abord l'absence de condamnation pour les anciens combattants des FARC, qui a fait débat. Par ailleurs, l'accord de paix prévoyait la mise à disposition d'une rémunération pour aider à la réinsertion sociale des anciens combattants. Et enfin, ce traité proposait l'attribution de 8 sièges au Congrès colombien pour les anciens combattants des FARC, dans l'optique de fluidifier la reconversion du mouvement guerrieros en mouvement politique plus traditionnel, dirons-nous. Donc ces mesures ont fait l'objet de vives contestations, notamment le mouvement contestataire a été mené par Alvaro Uribe, ancien président colombien. Bien que ce dernier, lors de son premier mandat, avait signé un accord de paix avec le groupe paramilitaire Autodéfense Unie de la Colombie, proposant des mesures peu ou prou similaires. Donc ces résultats inattendus, dans la mesure où les sondages se montraient relativement optimistes quant à la victoire du oui, laissent le pays dans une situation d'incertitude profonde. Le cessez-le-feu signé le 29 août dernier est censé rester en vigueur, a déclaré le président Juan Manuel Santos. Et la question de la mise en place d'une assemblée nationale constituante reste en suspens mais n'est pas exclue. La popularité de l'extrême droite et de la droite catholique en Colombie laisse présager un renouveau conservateur si le pays décide de s'engager dans la voie de la réforme constitutionnelle.
Alors, du côté de la Pologne, samedi a eu lieu un rassemblement devant le Parlement contre le projet de loi des conservateurs du parti Droit et Justice qui vise à renforcer la pénalisation de l'avortement. Et aujourd'hui, dans tout le pays, des milliers de femmes ont répondu à l'appel du groupe Son Vaut les Femmes, appel à la grève générale contre ce projet de loi. En effet, l'accès à l'avortement est déjà extrêmement restreint en Pologne. Une femme ne peut avorter que suite à un viol, un inceste, une grave pathologie du fœtus, un danger immédiat de mort pour la femme enceinte. Le nouveau projet de loi, lui, promeut une interdiction totale de l'IVG, sauf en cas de danger de mort pour la femme. Et une pénalisation, en plus des médecins et infirmières qui pratiquent l'avortement, des femmes qui avortent. Cette nouvelle pénalisation pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison. Cependant, Adam Bielan, qui fait partie donc du parti Droit et Justice, met un peu d'eau dans son vin et compte assouplir le projet de loi, conscient de l'opinion publique est clairement partagée. Face à cette nouvelle loi. En effet, selon un sondage Ipsos, seulement 11% de la population souhaite une plus grande restriction face à l'avortement. 47% pour le maintien de la loi telle qu'elle est et 37% des Polonais et Polonaises interrogés souhaitent une libéralisation de l'avortement. Coup dur en plus pour les conservateurs, l'Église polonaise s'est également prononcée contre la pénalisation des femmes qui avortent. Aussi, dimanche avait lieu un rassemblement en soutien aux Polonaises à Lyon, et Camille y était.
Oui, alors du coup, il y avait à peu près une centaine de personnes, c'était sur la place des Terreaux, et l'appel avait été fait à l'initiative du collectif de défense de l'IVG du Rhône, qui regroupe donc des associations féministes, des syndicats et des partis politiques. Ils avaient déjà fait un appel au mois d'avril pour se retrouver devant le consulat. C'était pareil, c'était pour lutter contre la loi contre l'IVG. Et donc voilà, il y avait eu des prises de parole, notamment du planning familial, de quelques personnes polonaises qui étaient là. Et pour le moment, elles attendent de savoir si les femmes polonaises appellent à d'autres rassemblements en France, en Pologne et partout en Europe.
Le pape, dans l'avion qui ramenait le très Saint-Père du Caucase dimanche, eh bien François le pape, a accusé les manuels scolaires français de propager un sournois endoctrinement de la théorie du genre. Donc ce sournois endoctrinement de la théorie du genre, ça serait un des aspects d'une guerre mondiale, totalement mondiale, pour détruire le mariage. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, le pape, il est catholique, apostolique et romain, et c'est le grand Manitou des catholiques. Donc c'est des chrétiens qui sont apparus en 1054, après un grand schisme où ils se sont fâchés avec le pape. D'où ce proverbe ecclésiastique bien connu, le pape est pas pope avec le pape. Donc ce pape François, il n'est pas content du côté sournois des manuels scolaires français, de l'endoctrinement sournois qu'ils opèrent chez nos petites têtes blondes, chez nos brebis. Donc pour rappel, tous les manuels scolaires du collège, ils ont été changés cette année, en théorie, parce qu'avec la réforme du collège, tous les programmes changent. Donc pour rappel également, le pape il a toujours raison, enfin pour les catholiques apostoliques romains, et là on ne peut pas lui enlever que il n'a pas totalement tort, hein. Il y a de l'endoctrinement dans les nouveaux manuels scolaires. Donc on se rassure, il y en avait déjà dans les anciens, et puis en fait depuis le début, il y en avait. Donc plus précisément, les manuels scolaires ils sont faits pour endoctriner, et ce de manière sournoise, et pas sournoise du tout. Donc c'est avec, avec les nouveaux programmes, c'est même du gros bourrin, hein, c'est du gros endoctrinement. Donc on peut citer la promotion qui est faite des Smart City,
la négation totale de la guerre de l'Algérie, la France-Afrique, l'esclavage, l'enseignement moral et civique, donc avec la Marianne de Valls, les nichons qui pendent. Donc c'est de la grande école républicaine, effectivement, qui nous tombe dessus, de celle qu'a donnée 14-18. Par contre, concernant les théories du genre, nada, il n'y a rien. Il y a quelques petits rappels de la loi, à savoir qu'en théorie, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais sinon, c'est toujours le même système patriarcal et machiste qui est promu. Donc François, sois rassuré, il n'y a aucun changement de ce côté-là. Alors ce pape, il a fait son annonce depuis son avion. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il plane à 10 000. Surtout quand on sait que son patronyme, il lui vient d'un type qui parlait aux oiseaux. Donc quant à sa guerre mondiale contre le mariage, c'est sûr en tout cas qu'elle est bien plus virulente que celle de l'Église contre la pédophilie. Et puis merde, si on y réfléchit, les catholiques, c'est les seuls à interdire le mariage, non ?
Ok, donc pour continuer là-dessus, donc aujourd'hui le 3 mars 2016, donc journée mondiale de l'habitat. Une journée pour rappeler que la question du logement est aujourd'hui un véritable problème et qu'elle touche tout le monde. En rappel, 3,8 millions donc, de mal logés en France, 141 000 de personnes donc sans domicile fixe, soit 50% de plus que dans les années 2000. Il faut attendre 4 à 6 ans pour avoir une place dans pour avoir un logement dans les HLM. 58 000 personnes sont en recours d'ALO, sont en attente afin d'être relogées. Si en France, cette journée mondiale de l'habitat, tout le monde s'en fout dans certaines parties du globe, cette journée permet à la société civile de se mobiliser pour dénoncer la ville néolibérale, la ville de la spéculation immobilière, la privatisation de l'espace public et la vie de la planification urbaine. La société civile est là pour revendiquer un droit à la ville, un droit à l'habitat, c'est-à-dire un droit où l'habitant est acteur de la ville et participe à la construction de celle-ci, et de replacer donc l'habitant au cœur des discussions. D'ailleurs, dans les informations nationales, le collectif Passe en nous, un collectif donc d'habitants et des associations donc des quartiers populaires, créé donc en 2014, mobilise demain à Paris contre la nouvelle loi Égalité et Citoyenneté. Donc demain, donc 4 mars, il se retrouve donc au métro donc Saint-Michel à 16h jusqu'au donc
octobre.
Ah, oh, excusez-moi. jusqu'au Sénat. Donc au nom d'une certaine mixité sociale le projet de la loi égalité et citoyenneté actuellement en discussion au Sénat, prévoyait à l'origine une interdiction du relogement des ménages à bas revenus dans les HLM, dits quartiers politiques de la ville. La mobilisation de la société civile a réussi à abroger cette mesure. Pour autant, le collectif Passe en nous dénonce la marchandisation du logement social depuis les années 2000, dénonce une baisse des APL, dénonce des loyers sociaux qui augmentent et une demande la garantie d'une justice sociale, l'arrêt des expulsions. Il demande également une garantie du relogement et il demande surtout la consultation des habitants dans les opérations de rénovation urbaine.
Donc pour filer l'actualité pénitentiaire, il faut savoir que l'OIP, l'organisme international, l'Observatoire international des prisons, a saisi le juge des référés du tribunal de Melun afin de solliciter qu'il soit prescrit à l'administration de mettre en place avec la plus grande diligence les mesures susceptibles de mettre un terme à la prolifération des nuisibles dans la prison de Fresnes. Donc, évidemment, ils ne parlent pas des prisonniers, ils n'en sont pas encore là, mais plutôt des rats, des cafards et des matons, donc qui sont apparemment le quotidien des détenus. Donc, fausse indignation, hypocrisie vacharde de cette info qui nous dit en substance, les tôles croulent, les tôles sont pourries, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le royaume de la prison. Donc, ce qui est super, c'est qu'en plus, on nous annonce 16 000 nouvelles places de prison pour des coûts en millions, en milliards d'euros.
Il faut savoir que le gros problème de la prison, bah, en fait, c'est la société, c'est les êtres humains qui en enferment d'autres. Et la vraie info, c'est que de ce côté-là, il n'y a rien qui change, quoi. Ça pue. À bas les prisons.
Alors, pour continuer au niveau national, une information qui est tombée aujourd'hui, c'est le maire de Marseille, M. Jean-Claude Gaudin, enfin, un maire républicain, a mis fin au projet de grande mosquée à Marseille. Donc, le conseil municipal a voté, donc ce lundi 3 octobre, la résiliation du bail du terrain destiné à sa construction. Donc, plusieurs motifs ont été invoqués, notamment un non-paiement d'un loyer depuis plusieurs années et un projet qui n'avançait pas. Ce que quand en fait on regarde ne serait-ce que la presse locale, on se rend compte que ce bail, signé pour plus de 50 ans, donc sur un terrain, sur les anciens abattoirs dans le 15e arrondissement, la première pierre a été posée en 2010, malgré et déjà un grand nombre de recours posés par le Front National sur une question d'un loyer jugé trop bas. Et après, faut pas s'étonner. Donc le loyer a été augmenté à l'époque, et après on s'étonne qu'il ne soit pas payé. Et en même temps, donc la mairie n'a absolument aucun projet par rapport à ce lieu, à ce terrain. Elle le récupère juste pour le récupérer, en fait. Ainsi comme le dénonce, en fait, la Samia Ghali, une des conseillères de l'opposition, une majorité de ces élus de l'équipe du maire ne souhaitent absolument pas cette mosquée et ont tout fait pour éviter que le projet existe. Donc, il est vrai qu'un certain nombre de projets internes à l'association qui menait ce projet existaient. Mais ce qu'eux expliquent aussi, c'est que la mairie, en fait, leur a mis tous les bâtons possibles dans les roues. L'association n'ayant plus aucune autonomie, et ça fait plus de 4 ans, en fait, qu'ils demandent à être reçus pour la mairie pour pouvoir envisager une nouvelle réunion pour avancer sur le projet. Donc, on constate une fois de plus que la mairie des Républicains a laissé pourrir un dossier. Après, elle s'étonne qu'il n'aboutisse pas. On peut proposer en tout cas aux Marseillais qui possèdent quand même quelques magnifiques églises et cathédrales. Donc au pire, si certains n'arrivent pas à trouver un endroit, ils ont qu'à utiliser les emplacements vides que les catholiques ne passent leur temps à réclamer. Et comme ça, tout le monde sera content.
Maintenant, passons sur quelque chose d'un peu plus léger. Kim Kardashian à la Fashion Week.
Donc, c'est chiant.
Ouais, Kim Kardashian, c'est chiant. Et ce sujet l'était aussi. Donc, Kim Kardashian était cette semaine présente à Paris pour assister à la Fashion Week, qui mobilise apparemment plus que la Journée mondiale de l'habitat. Donc, la très célèbre et mondialement reconnue actrice ou chanteuse ou je sais pas trop quoi a été la cible d'un immonde crime, à savoir le vol d'un coffret à bijoux contenant notamment une bague d'une valeur estimée à plusieurs millions d'euros.
Ah, je ris de m'avoir si belle dans ce miroir.
Donc, la superstar, encore sous le choc de cet acte odieux, a refusé de venir sur le plateau de Radio Canu, malheureusement. Mais une question persiste.
C'est pas vrai, on laisse pas causer.
Une question persiste encore parmi les enquêteurs. Comment une célébrité disposant d'un service d'ordre si incroyable a-t-elle pu être victime d'un vol aussi facilement, prévisible ? Donc Radio Canu pose la question et se demande, Kim Kardashian a-t-elle véritablement été victime de ce vol ou est-ce une fraude à l'assurance ?
Et si des gens ont envie, en solidarité, une campagne de dons peut être lancée, donc Radio Canu récolte de l'argent qui ne sera évidemment pas transmis à l'intéressé, mais vous pouvez toujours quand même nous envoyer des dons. Donc dans la catégorie blague, mais des fois qui font rire, d'autres non, mais là cette fois ça l'est pas mal, un sondage, encore un nouveau sondage. Donc même s'il est clair que la plupart du temps les résultats n'ont absolument aucun sens et que la plupart sont faux ou faussés à partir même de la question, un sondage Odessa pour France 2 nous révèle que 62% des Français jugent aussi mauvais. Donc je parle de qui ? Je parle en fait de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Donc en fait, plus de 62% des Français sont absolument persuadés que nos deux anciens présidents sont absolument nuls et qu'aucun n'a absolument aucun intérêt. Donc c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Donc 25% jugent quand même que Nicolas Sarkozy était meilleur président par rapport à Hollande et 12% seulement que Hollande l'est. Par ailleurs, 33 et 27% souhaitent que Nicolas Sarkozy et François Hollande jouent un rôle politique important. Donc en fait, même pas un tiers de la population s'intéresse à ces deux-là. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que Alain Juppé et Marine Le Pen sont loin devant, avec entre 70 et 50% en la population française qui s'intéresse à eux.
Et dans la catégorie chasse aux Pokémon, le nouveau Barfaz qui s'est ouvert, qui s'est paraît-il ouvert à Lyon.
Oui, donc chasse aux Pokémon, et bien maintenant à Lyon on risque de voir apparaître un nouveau sport, le retour de la ratonnade. C'est qu'un nouveau bar qui ouvre, ça, c'est toujours sympa, un bar associatif en plus, avec un magnifique nom, le Pavillon Noir. Donc on se dit chouette, un nouveau bar pirate à Lyon. Sauf que ici on parle du GUD. Le GUD, bon, pour rappel, c'est le groupe Union Défense. C'est une organisation réactionnaire née en 1968 et bien loin d'une sympathie de l'association culturelle. Elle se revendique des idées fascistes, d'une certaine nostalgie du régime de Vichy, mais également d'un discours discriminatoire raciste, antisémite, islamophobe, LGBT-phobe, défendant une société essentialiste et ségrégationniste. Cette organisation qui tente de s'implanter dans Lyon s'est fait connaître à plusieurs reprises par ses actions brutales et violentes. La dernière en place consistant à agresser un enseignant de Lyon 3 qui aurait eu l'audace de ne pas apprécier leur présence et leur propagande fasciste. Ils veulent donc faire de ce lieu un lieu de propagande. Ce bar doit pour eux devenir le nouveau lieu de la reconquête lyonnaise. Le climat actuel leur permet de se sentir pousser des ailes, surfant sur les propos réactionnaires, racistes, islamophobes et sexistes qui fleurissent dans les discours des futurs candidats. Donc, il s'est tenu une manifestation d'opposition ce samedi à Lyon, mais ce qui est extrêmement impressionnant à voir et qui est extrêmement triste et dangereux, c'est que finalement extrêmement de monde était présent et qu'il n'y a eu surtout absolument aucune communication dans la presse en dehors de Rébellion. Pour tout vous dire, en fait, en regardant le Progrès de dimanche sur site internet, plus des trois quarts des articles étaient consacrés aux accidents de la route, alors qu'un bar de néo-nazis ouvrait à côté de chez eux.
Alors, on passe aux invités qui sont là, des Vaudais, qui vont nous parler de la lutte dans les banlieues.
Le jingle.
Le jingle.
Pour commencer, un petit jingle d'introduction, en fait.
Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville, conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle.
Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Nos visiteurs s'acheminent vers un appartement habité. Ils vont pendant quelques minutes en apprécier la chaude intimité.
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace.
Le démantèlement des tours a déjà commencé au Mas du Taureau. Ce quartier de Vaux-en-Velin est en cours de réhabilitation. Objectif, améliorer les logements, multiplier les commerces, les espaces verts et faire oublier les années 90, lorsque la cité était secouée par de violentes émeutes urbaines.
Donc c'est une transformation sociale particulière d'un espace qui passe par une transformation matérielle. Et les deux vont ensemble. Donc les formes peuvent être assez variées. Ça peut être de la réhabilitation de l'habitat ancien. Une appropriation à la fois matérielle et symbolique d'un espace populaire, qu'il soit de résidence ou de production, par une autre classe sociale, en l'occurrence mieux placée dans les rapports de classe.
Ici, les tours ont été remplacées par des immeubles modernes et ouverts sur l'extérieur.
La politique qui a été faite dans les années 90, c'est-à-dire, bon, il y avait des maisons défectueuses, il y avait des immeubles un peu anciens et tout ça, il fallait rénover. C'est normal, c'est plus, c'est des je crois que c'est des immeubles qui dataient des années 1800, un truc comme ça, qui étaient vraiment défectueux, qui étaient vraiment impossibles d'habiter. Et donc, à un certain moment, il fallait rénover, il fallait passer à autre chose.
Voilà, j'avais une petite question à poser par rapport au tour du quartier qu'on a fait. On a rencontré pas mal de locataires et d'habitants. La question à poser, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la rénovation urbaine, quel serait votre souhait? Comment vous auriez souhaité qu'elle soit, cette rénovation urbaine?
Donc, je pense qu'en majeure partie, déjà, ce qu'il aurait fallu, c'est de la concertation. C'est-à-dire qu'on parle avec les habitants pour qu'ils définissent
eux-mêmes ce qu'ils ont vraiment besoin. Et je pense que la majeure partie d'entre eux, ce qu'ils voulaient, c'était une réhabilitation et non une déconstruction. Et ça, l'avis des locataires n'a pas été demandé.
Alors, ce qui se passe actuellement en termes de l'opération de rénovation urbaine.
Non, mais nous, on a bien compris que tout allait être vendu, les terrains, machin, ouais. Tata. Bon, on a compris le mouvement, hein, on n'est pas dupes. On a vu ce qu'ils ont fait à Cachin, mon fils il habite là-bas, ils ont mis un magasin bio, il est toujours vide, c'est inaccessible au niveau des tarifs, hein, le magasin bio, on ne peut pas se permettre. On achète 3 pommes, ça fait 30 euros, non bon, je caricaturise, hein, mais c'est tout à fait ça. La mixité qu'elle nous avait dit, madame la maire, la mixité sociale, c'était mettre des gens qui avaient de l'argent avec des pauvres. Sauf que...
Là, c'est le contraire, alors qu'on fait fuir les gens qui sont pauvres.
Et on me voilà, exactement. Et nous, on ne peut pas accéder aux mêmes choses que...
Donc on a le plaisir d'accueillir Karim, Pierre Didier, Aloua et Safa, donc qui viennent de Vaux-en-Velin, pour nous parler de la rénovation urbaine, de la résistance, de la lutte et de la vie qui se passe là-bas et qui essaye de durer. Donc si vous voulez bien, ben, vous présenter d'abord et puis nous parler un petit peu de vous, de ce qui se passe à Vaux, parce qu'on a entendu parler que vous organisiez le samedi 8 octobre un rassemblement à la fois pour informer et à la fois pour essayer de faire converger les luttes de la rénovation urbaine et des zadistes, des choses comme ça.
Bien, ben, je me présente, hein, je m'appelle Aloua. J'habite dans le quartier du Monitoron, mon gerbier. Voilà, ils ont mis le quartier en démolition. Ils veulent nous reloger au prix le plus fort, alors que la loi en rue dit qu'on devrait avoir le même loyer. Et que, voilà, quoi, ils nous prennent, la mairie nous prennent pour des cons, les offices d'HLM, pareil. Chacun se renvoie la balle. Donc, on est là pour avoir du soutien. Voilà, ils nous mettent la pression. Alors là, j'habite le quartier depuis 1973. Avant, c'était le bac du Rhône, c'était super bien. Et là, depuis que en 2003, ils ont racheté Est Habitat, Métropole Habitat, ont racheté le quartier. Voilà, quoi, ils ont laissé partir le quartier en vrille. On vit dans des bidons de ville. Voilà, quoi, le relogement, ils sont pas à notre écoute. Ils mettent la pression aux 20 locataires qui restent. Ils ont interpellé la petite fille d'une dame invalide en lui disant, si tu signes pas pour ta mère le bail, ta mère va se retrouver dehors. Donc, voilà, quoi. Nous, on a interpellé après en mairie monsieur le maire. On l'a invité à venir dans le quartier pour constater. Normalement, il doit venir demain soir à 18h. Mais nous, on espère beaucoup que le maire viendra à la réunion à Salmitorjara que Est Métropole Habitat nous a donné l'invitation. J'espère que le maire sera là aussi avec Est Métropole Habitat. Voilà.
Là, juste pour... compléter donc Karim, hein, pour compléter ce que vient de dire Aloua. Cette réunion, elle est organisée par Est Habitat, donc les principaux bailleurs qui sont concernés par la démolition et la révolution urbaine. En fait, les uns et les autres se renvoient la balle, aussi bien la municipalité que se renvoient les responsabilités de la situation que vivent aujourd'hui. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une vingtaine d'habitants aujourd'hui qui refusent d'être délocalisés, délogés de leur logement qu'ils occupent depuis...
Voilà.
Toi, Aloua, tu disais depuis 1973.
Voilà.
Depuis 73. Ouais. Et donc, qui subissent des pressions depuis quelques mois des différents organismes sociaux et institutions, en les incitant à accepter un logement avec des loyers...
assez chers.
Assez chers.
Moi, ils proposent un T4 à 750 euros.
Alors que vous payez aujourd'hui...
159 euros.
Avec le garage, 600 euros en plus.
Voilà, vous avez tout compris.
Et les charges aussi.
Et les charges.
Donc voilà la situation, une vingtaine de familles qui sont aujourd'hui en résistance hein, contre l'ANRU et tout ce que cela implique. Mais il y a aussi la responsabilité hein, locale de la ville de la mairie, de la ville de Vemblin, qui devrait normalement venir en soutien à ses habitants, parce que tel que la rénovation urbaine avait été présentée il y a quelques années, c'était pour et par les habitants. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les réunions qui ont pu être organisées à travers les conseils de quartier, à travers les instances où on venait rencontrer les habitants et essayer de les associer à cette rénovation urbaine, on se rend compte que c'était du leurre, quoi. En fait, l'objectif, c'est le remplacement de la population. En clair, c'est ça, c'est une politique de gentrification. On a eu l'occasion d'en parler ici, à Radio Canu. On a intervenu
en juillet,
sur la même question. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est le remplacement d'une population. Donc, on veut arriver partir de 70% de logements sociaux et la baisser à 25%. Donc, l'objectif, il est clairement défini. Donc, une partie de la population des tours qui ont été détruites ont été logées dans différents... Enfin, à la périphérie des villes, en fait. Donc, voilà. Et ceux qui veulent rester, on doit pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir rester dans les mêmes conditions, puisque l'ANRU, le programme de rénovation urbaine, le permet, en fait, le relogement dans les mêmes conditions de loyer, etc. Quoi.
Donc, on voit en Velin, zone de non-droit, on voit que le droit n'est pas respecté, et que les propres lois des aménageurs, l'ANRU, par exemple, qui préconisent que certaines choses, ben, direct, en fait, ils ne respectent pas leurs propres lois. Et quel est l'objectif, derrière cet aménagement ? À part de virer les gens, parce que les gens, va bien falloir les mettre quelque part, va bien...
Les gens sont, comme je vous le disais, sont envoyés dans les périphéries des villes, quoi. Il y a des quartiers, enfin des ghettos, on en parlera dans une dizaine d'années, hein. Du côté de l'île d'Abo, Villefontaine, etc., on les envoie dans la périphérie des villes. En fait, l'extension de la ville de Lyon se fait par l'Est lyonnais. Et les spéculateurs immobiliers ont vu en Vaux-en-Velin une ville qui a un fort potentiel immobilier, donc au détriment. Donc ils investissent au détriment des populations qui y sont depuis toujours, quoi.
Exactement, parce que le maire veut plus de social à Vaux-en-Velin, veut plus de logements sociaux. Qu'est-ce qui va se retrouver dans la merde, en prenant poliment ? C'est les retraités, les précaires, parce que les bâtiments vieillissent, s'ils font plus de sociaux, ben, le pauvre sera pauvre et le riche sera riche. Donc il y aura beaucoup de gens qui ne pourront pas se permettre de prendre un appartement à 700 euros, quoi. La mairie, ça, ils ne voient pas les retraités, les salaires de misère qu'ils ont. Ils ne veulent plus de sociaux. Et donc, quand les bâtiments ils vont être démolis, ils vont les mettre où, les gens ? S'ils n'ont pas moyen de payer des loyers, vous voyez, ça, ils ne voient pas. Ils ne sont plus pour le social, à Vaux-en-Velin, on dirait.
On était juste à la question de la construction de nouveaux logements.
Oui.
La construction de nouveaux logements avec une diminution. Donc, je vous donne un exemple des différentes tranches de rénovation urbaine sur la commune de Vaux-en-Velin. Il y a eu à peu près, à ma connaissance, 1500 à peu près logements qui ont été
détruits.
Qui ont été détruits pour une
reconstruction. Ça fait combien de temps que Vaux-en-Velin est en processus de rénovation urbaine ?
Ça fait pas loin d'une dizaine d'années.
Une dizaine d'années.
Donc. Donc Vaux-en-Velin, au-delà de la rénovation urbaine, etc., elle est une cumularde hein, des questions sociales, etc. Quoi. On a connu les révoltes urbaines en 90, avec la création de la politique de la ville, enfin, le ministère de la ville, etc., avec des promesses dans ces quartiers. Et la conséquence de tout ça aujourd'hui, c'est le déplacement, en gros, des populations vers d'autres lieux, que...
En périphérie.
Ouais, en périphérie, et en fait, Vaux-en-Velin, au-delà de ça, c'est devenu des lieux de mémoire aussi pour les gens, au-delà de l'habitat, quoi. C'est...
Lieu de mémoire, est-ce qu'il y a une volonté du...
qu'il y a une volonté du politique de détruire ces lieux de mémoire et justement de faire en sorte que des périphéries qui ont enseigné le territoire, qui ont infusé dans le centre et qui finalement ont apporté à la société beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que le politique il veut justement éviter que ces périphéries elles deviennent pas centrales mais en rapport avec le centre?
Ouais, c'est une bon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui concrètement des immeubles démolis et puis des personnes qui doivent être relogées. Et par rapport à ça, il y a un total irrespect, comme cela a été dit, des règles que l'ANRU elle-même elle produit et qu'elle se propose de réaliser. Mais sur le tableau, dans le tableau de fond, il y a effectivement l'histoire. Il y a l'histoire des gens. Il y a l'histoire des gens qui habitent ces villes-là. Et ces gens-là, des villes comme Vaulx-en-Velin, ça représente une histoire importante, une histoire forte. Vaulx-en-Velin, c'est le creuset de l'immigration. C'est une ville qui a accueilli pendant de nombreuses générations des gens qui venaient de différents endroits, des gens qui sont de différents milieux. Et il y a une volonté d'effacer cette histoire-là. Parce que cette histoire-là aussi, et durant ces 30-40 dernières années, a posé des problèmes sur le plan social, des problèmes sur le plan politique, des problèmes sur le plan de la cohésion, des problèmes d'ordre culturel, des problèmes d'inégalité, et des problèmes liés à la discrimination, des problèmes liés au racisme. Et ces questions-là, faute d'être résolues par des moyens de droit commun, on a décidé en 2003, il y avait un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Bordeaux, qui a sorti une loi géniale, qui a dit ben, une des façons de résoudre ces problèmes récurrents et de ces quartiers, ces villes qui régulièrement font des révoltes populaires sur ces questions-là, ben, c'est de détruire ces logements-là, de disperser les gens, de créer une mixité, et de finalement concourir à rendre ces endroits-là plus attractifs. Plus attractifs parce qu'aujourd'hui, ces villes sont peuplées de gens d'origine maghrébine, d'origine africaine, et surtout pauvres. Et leur pauvreté, leur situation, donne une mauvaise image à ces endroits-là, qui sont des ghettos. Et donc, les projets de rénovation urbaine, leur objectif, c'est de créer cette mixité nouvelle, et donc de donner plus de valeur à ces villes-là, donc pour séduire une autre population qui viendra habiter ces endroits-là. Et je fais le lien avec ce que dit Karim, c'est-à-dire qu'on rêve que dans ces villes-là vienne s'installer un aéropage de classe moyenne, blanche de préférence, parce que ça donne une meilleure image, une plus grande valorisation. À ces villes-là. Et les gens qui n'ont pas les moyens de vivre dans cette ville-là par rapport à cette rénovation urbaine, parce que la rénovation urbaine, c'est des logements plus chers, c'est des logements résidentialisés, c'est des équipements nouveaux. Toutes ces structures-là ont un certain coût. Et comme les personnes qui habitent ces endroits-là n'ont pas les moyens de rester sur place, compte tenu de leur revenu insuffisant, ben forcément, ils vont aller habiter ailleurs et c'est la question du repeuplement.
Bon, dans ce que tu dis, en fait, il y a aussi la question du travail et de l'utilité économique de l'espace qui est ici rénové. Et vu que le samedi 8 octobre, il y a une convergence entre Notre-Dame-des-Landes, l'aménagement du territoire, de la campagne, pour fonctionnaliser les espaces, pour les rendre utiles, pour fonctionnaliser les gens, en fait, on s'aperçoit que les gens de Vaulx-en-Velin, ils ont été bien utiles, bien exploités, on les a fait travailler, on les a exploités longtemps, et maintenant qu'il y a les délocalisations, maintenant que l'industrie mute, etc., on n'a plus besoin d'eux, donc du coup, dégagez. On n'a plus besoin de vous, on va mettre autre chose à la place. Et donc du coup, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi cette idée de convergence entre Notre-Dame-des-Landes et Vaulx-en-Velin, elle vous est apparue de façon si claire, en fait?
Parce que on défend aussi une autre idée de la ville, de son développement. Vaulx-en-Velin, à un moment donné, comme d'autres villes d'ailleurs de l'Est lyonnais, comme Décines, comme Vénissieux, comme certains quartiers de Villeurbanne, comme Saint-Priest, comme Saint-Fons, etc., ont connu, on a fait venir dans ces villes une main-d'œuvre pour venir travailler dans les usines. Une main-d'œuvre pas chère qu'on allait chercher dans les pays d'origine, au Maghreb, en Afrique, etc. Et donc, tout à l'heure, j'ai entendu 1973,
oui, exactement.
Six mois à ma famille quand elle est arrivée. Nous, on est arrivés en 73 à Vaulx-en-Velin. Et donc, ces populations-là, on bâtit la ville.
Voilà.
On construit la ville. Et donc, ils sont très attachés et ont vécu et continuent de vivre dans des logements qui, c'est vrai, ont été amortis deux ou trois fois, parce que ces logements-là étaient faits, pour durer pas aussi longtemps que ça. Et donc on est très, 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 très touchés par ça. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec Notre-Dame-des-Landes, qui connaît depuis plusieurs générations une lutte des habitants qui ont des exigences nouvelles par rapport à la gestion de leur territoire, par rapport à la participation en termes de vie démocratique, en termes de vie économique, en termes de mobilité. Il y a exactement les mêmes ingrédients à Vaulx-en-Velin, puisqu'il y a un refus d'être délogé, il y a une volonté de participer à la vie économique et sociale de ces quartiers-là. Il y a aussi une question économique très importante, parce que il y a un apport économique important, mais qui n'est pas reconnu par les différentes autorités, et en particulier par la ville. Et donc, il y a aussi un refus démocratique, puisqu'il y a un manque total de transparence, à la fois sur les procédures, mais aussi sur les modalités de fonctionnement de la rénovation urbaine. Et il y a enfin un dispositif qui consiste à vraiment mettre la pression sur les gens, à les menacer, à les isoler, pour qu'ils répondent coûte que coûte à ce qui leur est proposé, alors que ça ne leur convient pas du tout. Et là, il y a aussi des liens à faire avec Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il y a une logique économique qui veut que on construise un nouvel aéroport sur un territoire qui en vérité n'en a pas besoin, alors qu'il y a déjà un aéroport qui existe et que cet aéroport existant pourrait être développé, etc. autrement. Voilà, on a les mêmes logiques. Et on a aussi derrière la rénovation urbaine tout un système de foncier, de différents acteurs qui veulent s'accaparer le foncier, parce que c'est un foncier qui est pas cher, pour construire des logements pour des habitants qui n'existent pas aujourd'hui. Donc il y a aussi là une logique économique. Il y a aussi un simulacre, j'ai envie de dire, de la participation des habitants, puisque aussi bien à Notre-Dame-des-Landes que à Vaulx-en-Velin, ont faim d'organiser une participation démocratique pour recueillir l'avis des gens, etc. Alors que on sait très bien que tout ça est fabriqué et que la réalité va plutôt du côté des promoteurs et des acteurs économistes. Voilà.
Exactement.
Donc pour nous, cette journée-là, du 8 octobre, c'est très important de faire ce parallèle-là et mettre en avant la convergence des luttes. Et notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Nantes, ils sont les bienvenus à Vaulx-en-Velin, où on va tâcher d'aussi mettre la lumière sur les luttes des habitants et de venir soutenir des gens face à un système, face à un rouleau compresseur qui est animé et porté par les acteurs de la ville aussi, même s'il y a des bailleurs, il y a l'État, il y a différents acteurs publics. Mais voilà, c'est un enjeu qui est très important et qui montre que ce qui se passe à Vaulx-en-Velin se passe aussi dans d'autres endroits de France. Donc c'est très important que cette journée-là soit soutenue à Vaulx-en-Velin, au Mas du Taureau.
D'ailleurs, on a tellement été
séduit par la résistance qui est organisée à Notre-Dame-les-Landes, qu'on a proposé, nous, d'être la première franchise urbaine de la ZAD, mais dans le milieu urbain. Donc, c'est une pointe d'humour. Simplement rappeler que on invite tout le monde à venir se mobiliser, parce qu'il faut savoir que la question de la rénovation urbaine sur la commune de Vemblin concerne différents quartiers de Lyon et de la métropole, donc Douchères, Vénissieux, Bron, etc. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer, converger dans leur lutte. On a l'appui de Nuit Debout, enfin, même si Nuit Debout n'est pas une entité, enfin, tout le monde est Nuit Debout, en fait, mais il faut quand même rappeler que cette rencontre-là entre les différents acteurs qui portent Vaud Debout, donc on a décliné Nuit Debout par Vaud Debout à Vemblin, c'est aussi une rencontre avec, entre les quartiers populaires, des gens de Nuit Debout, des classes moyennes, pardon, des intellectuels, etc. Et ce qu'on a voulu réussir à Vemblin, en fait. L'idée, c'était de décentraliser un peu ce qui se passait à Place Guichard, mais aller appuyer des luttes concrètes sur le terrain. Donc, samedi, pique-nique. Donc, on invite tout le monde à venir avec son pique-nique, à une journée d'échange, de rencontres. Et l'idée, c'est aussi que des paysans de Notre-Dame-les-Landes viennent rencontrer les habitants de la commune de Vemblin et expliquent un peu leur manière et leur forme de résistance à cet aéroport qui peut aussi être mobilisateur aussi sur la ville de Vemblin.
Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je pense que tout le monde a conscience que ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de global, et que cette globalité du capitalisme, des intérêts financiers, eh bien, ça impacte chaque localité. C'est pas parce que c'est quelque chose de global qu'on ne le ressent pas tous. Et que la seule manière de résister, de lutter contre cette globalité, bah, c'est de faire émerger le local, de fédérer ces différentes localités, que ça soit la campagne, que ça soit la ville, que ça soit le périurbain, que ça soit le travail. Il faut, je pense, c'est votre avis, bah, créer des liens qui sont absents. Il y a une tentative de créer des schismes, de créer des divisions en permanence dans la société, à travers l'image qu'on renvoie des zadistes, gens violents, à travers l'image qu'on renvoie des habitants des banlieues, gens violents, à travers l'image des militants qui essayent de s'opposer à la destruction du monde, gens violents, et finalement bah, chercher les gens violents et peut-être que vous trouverez des amis, quoi.
On en trouverait pas.
Non, mais c'est tout à fait vrai. D'autant plus que créer des liens, c'est aussi créer un langage commun, parce que on est dans un contexte aussi où ce système capitaliste s'assoit et se repose sur une division que lui-même fabrique, c'est-à-dire qu'on isole les gens, on les monte les uns contre les autres, on les fait se confronter entre eux, on balkanise finalement les luttes, on les parcellise. Et l'idée, effectivement, dans cette convergence, c'est de faire sens commun, c'est de vraiment fédérer et mobiliser une idée qui est vieille comme le monde. Hein. C'est, voilà, c'est le rapport de force, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Et que pour... Mais comme les gens ont été tellement divisés, on a tellement mis l'accent sur leur différence plutôt que leur convergence... Bah aujourd'hui, on est dans l'obligation, dans la nécessité d'inventer des outils communs, de créer des outils communs, de créer un langage commun pour justement dépasser ces divisions-là, quelle que soit la philosophie animée par les gens, quelle que soit leur conviction, qu'ils soient athées, agnostiques, croyants, incroyants, quelle que soit leur conviction politique. Voilà, c'est vraiment appeler les gens à venir défendre l'essentiel, c'est-à-dire la dignité, le droit à exister, à s'exprimer, à être reconnu, à reconnaître également Et ça c'est vraiment fondamental. Et c'est ce sens commun qui, à mon avis, est en capacité de résister à ce rouleau compresseur.
Donc, juste une précision. Donc, samedi 8 octobre, à partir de 10h le matin jusqu'à 17h, voire 18h le soir. Donc tout le monde est le bienvenu avec son pique-nique, bien sûr. On essaiera d'aménager un espace restauration sur place pour les gens qui n'ont pas prévu, mais on a besoin de cette convergence de lutte. Alors plus on sera, mieux ça sera. Et l'idée, c'est d'inscrire cette lutte-là dans la durée. Et j'espère que on sera nombreux. Donc ça se passe place Guy Môquet, Mat du Taureau, le 8 octobre à 10h.
Ah, merci Karim, merci Pierre Didier, merci Aloua,
merci
Safa aussi qui est un peu jeune encore pour parler, mais ça viendra.
Merci Canu.
Et on vous dit à tous à samedi.
Ok, merci Radio Canu. Merci.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Alors, juste quelques infos avant, pendant que les copains se mettent en place pour la lecture colérique. Donc, on a mardi, à la Lutine, collectif d'entraide à la rédaction qui lance sa rentrée, son pot de rentrée. Donc, on vous invite à tous venir si vous voulez vous entraider à écrire des articles. Un rassemblement de soutien le 6 octobre pour les inculpés du mouvement contre la loi travail au palais de justice dans le 5e arrondissement. L'assemblée de lutte à 18h30 le même jeudi. Et le samedi, donc à Vaux, comme les copains l'ont annoncé, une journée de mobilisation pour Notre-Dame-des-Landes et la rénovation urbaine à Vaux-en-Velin.
Et juste, pardon, pour l'Assemblée de lutte, ça se passe à la Bourse du Travail, comme d'habitude.
À 18h30, en général, au troisième étage, salle B, enfin, demandez à l'accueil, il y aura des panneaux.
Voilà, et maintenant, c'est la lecture colérique.
Oui, nous revoilà pour la lecture très en colère.
Pas content.
Pas content du tout. Sur l'espace public, la rénovation, la concertation, on se met tous en place autour de deux micros parce qu'on n'a qu'un papier pour tout le monde. Allez, c'est parti.
Ainsi, il faut imaginer qu'autour de ce pôle de loisirs vont venir se greffer du logement, des activités économiques diverses, des services, des équipements publics, des écoles, des commerces de proximité, enfin tout ce qui fait ville. Ainsi, ce que l'on fera ici, autour de ce pôle de loisirs, c'est un morceau de ville. Très bien, nous voyons bien maintenant comment la réalisation du pôle de commerce et de loisirs va activer un processus de renouvellement urbain beaucoup plus large.
Y a-t-il d'autres questions ?
Vous nous demandez de monter dans un train en marche sans nous dire où il va ?
Moi, je participe pas parce qu'on parle jamais de ce qui fait conflit.
Et moi, je participe pas parce que je me suis déjà fait avoir.
Ouais, moi je participe pas parce que j'ai toujours l'air idiot quand il faut parler dans un micro.
Là-bas, oui monsieur.
On vous paye combien pour poser ces questions-là aux gens ? Être au monde à plusieurs, c'est donner un sens social à l'espace. Ce qui fait la ville, c'est la mise en relation. Pas seulement l'addition de... Il suffit de demander aux gens ce qu'ils veulent, et puis c'est tout.
De toute façon, ce que les gens veulent, on le sait. Heureusement, à votre disposition existent de nombreux organismes et dispositifs pour vous inclure dans les dynamiques de renouvellement de vos espaces publics et urbains et citoyens et urbains et publics et sociaux et durables et de vie.
La NRU, les QPV, les QUX, le Grand Lieu Habitat, le SACVEL, ADOMA, DALO... USH.
Des projets pensés pour les gens.
On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Wesh.
Prendre part.
Nous allons amplifier la force de frappe de l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Monsieur le Premier ministre, nous nous adressons très solennellement à vous pour vous dire que nous avons décidé de ne plus nous asseoir à la table des ministres de votre gouvernement. La coordination nationale Passe en nous regroupe des habitants, des collectifs et des associations qui interviennent dans les quartiers de la politique de la ville, parfois depuis de très nombreuses années. Depuis, nous n'avons cessé de proposer, mobiliser, interpeller dans une véritable démarche de co-construction de la politique de la ville. Partout où cela était possible, nous avons participé au Conseil citoyen et aux maisons du projet. Nous avons travaillé avec vos ministres sur les difficultés rencontrées dans les territoires. Nous les avons alertés sur les détournements de la loi, ici ou là. Nous avons joué le jeu du dialogue et du débat. Mais nous nous sommes heurtés au désintérêt de votre gouvernement. Le sort des quartiers populaires et de leur population n'a pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, une priorité de votre gouvernement.
T'as le choix. Petit A, rien. Petit B, pas plus. Petit C, encore moins. Prends ton temps, réfléchis. C'est important pour moi que ça vienne de toi.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'intervention publique. Au contraire, c'est nécessaire. Mais ces nécessités, quoi qu'on en dise, n'ont jamais été élaborées de manière démocratique. Ce sont des logiques descendantes. On ne demande pas aux habitants, pourtant les premiers concernés, s'ils adhèrent au programme qu'on imagine pour eux. Et encore, si c'était fait intelligemment, ça pourrait parfois se justifier.
Depuis le début, c'est le même problème. Les gens attendent une boulangerie, une charcuterie, bref, du petit commerce.
Ce quartier n'est pas à prostituer. Ce n'est pas quelque chose qui doit rapporter de l'argent à des gens qui viennent y mettre des sous.
Ce que l'on va créer ici, ce pôle de commerce et de loisirs, de l'extase, est un concept unique, complètement neuf. On n'a jamais fait ça nulle part.
J'ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Un espace sans fonction. Afonctionnel. Ça n'aurait évidemment pas été un espace uniquement destiné à libérer les autres, mais un espace, je le répète, qui n'aurait servi à rien. Comment penser le rien ?
La tendance est donc de développer des centres commerciaux dans le cœur des villes.
Démocratie participative.
Référendum.
Concertation.
Assemblée délibérante.
Débat public. Enquête publique.
Conseil de quartier.
Parole des habitants. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Droit à la ville.
Démarche de projet.
Démocratie locale.
Assistance à maîtrise d'ouvrage.
Démarche descendante.
Implication montante.
Empowerment.
La démocratie participative est à la mode, mais la participation des habitants a peu de poids.
Si l'on devait traduire la démocratie en musique, le thème majeur serait l'harmonie de la dissonance.
Le projet urbain absorbe et traduit les aspirations des habitants.
Mixité sociale.
L'introduction de mixité sociale et la revitalisation socio-économique sont devenues les deux principales justifications de la mise en place des politiques de rénovation urbaine dans les quartiers populaires.
Expulsion.
Exclusion.
Crise du logement.
Crise des banlieues.
Contrôle de l'espace public. Surveillance.
Assainissement.
J'ai toujours aimé dormir dehors. Je dors en plein air dès que je peux. Je m'allonge sous un arbuste ou un arbre. Je cherche une remise ou un auvent, un endroit propice. Me voici couché, pensant au plaisir qu'on éprouve à dormir dans une maison.
Alors on s'est assis, on a regardé passer les gens. 36e, fine crête domptée. 38e, lent et mesuré, au loin tête en l'air qui gamberge. Je me suis retournée sur mon voisin, mon deuxième café serré.
Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir devenir dans tout ça ?
J'avais les PO, on va essayer de durer.